France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. C'est une altercation sans précédent devant les caméras du monde entier dans le bureau ovale qui a opposé hier Volodymyr Zelensky au président américain. Pendant près d'une heure, on a assisté en direct à un exercice d'humiliation et d'escalade verbale d'une rare violence. Donald Trump n'a cessé de faire son propre éloge tout en accusant son homologue ukrainien de refuser la paix sans avoir les bonnes cartes en main, selon son expression. En surenchère constante, le vice-président J.D. Vance lui reprochait d'être en tournée publicitaire sans avoir jamais remercié le peuple américain. Plus question d'un accord sur les ressources naturelles de l'Ukraine, Donald Trump est parti jouer au golf sans que la délégation ukrainienne ait eu le loisir d'aborder le sujet. Aussitôt, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, plusieurs autres pays européens et les autorités de Bruxelles ont exprimé leur solidarité envers l'Ukraine. Où en est-on ce matin? Voilà plus d'une semaine que les Européens sidérés voient la fracture transatlantique s'élargir sous leurs yeux. Le rythme s'est accéléré depuis la visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche lundi dernier, le Premier ministre britannique avant-hier, Volodymyr Zelensky hier. Aucun des interlocuteurs européens n'a obtenu de Washington la moindre garantie de sécurité en cas d'un éventuel cessez-le-feu. Donald Trump veut la paix à tout prix, ce sera donc sur le dos de l'Ukraine. Vladimir Poutine, lui, joue le temps long, évoquant les promesses d'une coopération fructueuse avec les États-Unis, savourant leur volte-face et un discours officiel désormais calqué sur celui du Kremlin, sans oublier deux votes à l'unisson aux Nations Unies. Pékin reste circonspect. Donald Trump chercherait-il à gâcher l'amitié sans pareil entre Xi Jinping et le président russe? Demain, dimanche, une quinzaine de dirigeants européens vont se retrouver à Londres avant un sommet à Bruxelles jeudi prochain. Jusqu'où l'affront infligé à l'Ukraine les contraint-il à resserrer les rangs? S'ils sont seuls à soutenir Kiev sans les États-Unis, comment faire? Le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, s'est déjà dit convaincu de l'urgence de construire un pôle européen de défense. Quelle sera la position de l'Italie, de Madame Meloni, virtuose de l'équilibrisme, proche, on le sait, de Washington et d'Elon Musk? Le Royaume-Uni et la France, les deux puissances nucléaires du continent, ont accordé leur partition. Serait-ce l'occasion d'un rapprochement bienvenu entre Londres et l'Union européenne? L'Ukraine, en attendant, continue de se battre. À défaut d'obtenir la paix, Donald Trump, à sa manière, nous infligerait-il à nous autres Européens un choc salutaire? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Daniela Schwarzer, vous êtes membre du directoire de la Fondation Bertelsmann et du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors. Robin Niblett, Distinguished Fellow de Chatham House à Londres, l'institut que vous avez dirigé, Sir Robin, de 2007 à 2022. Merci mille fois d'être avec nous, d'autant plus que vous êtes à Washington ce matin et qu'il est 5h03 du matin. Marc Lazare, depuis Rome, professeur émérite à Sciences Po, professeur à l'Université Louis à Rome, et Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Michel Duclos, je commence avec vous pour le diplomate que vous êtes. Comment réagissez-vous à cet exercice de télé-réalité auquel on a assisté hier?
Bien, Christine, pour être diplomate, on n'en est pas moins homme. Et je réagis comme tout le monde, naturellement, profondément choqué, horrifié, humilié même d'une certaine façon, parce qu'à travers Zelensky, c'est l'Europe que Trump et Vance sont humiliés. Et c'est le fondement de la relation transatlantique depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est peut-être l'aspect sur lequel on reviendra, c'est que tout au long de ma carrière, j'ai connu de multiples malentendus transatlantiques, comme on disait avec M. Kissinger, mais c'était toujours sur des histoires de missiles, y en a-t-il assez, pas assez, qui fait quoi, faut payer plus, etc. C'était jamais sur les valeurs. Même quand De Gaulle se disputait avec les Américains, personne ne pouvait douter qu'on était dans le même camp sur les choses fondamentales. C'est ça qui est le fossé qui, hier, a été illustré de la manière la plus fondamentale. Les valeurs, ou pour dire les choses autrement, les sentiments, les passions, comme disait Pierre Hassner. On n'est plus... les deux rives de l'Atlantique ne sont plus dans le même monde de sentiments, de valeurs, de perceptions.
Et tout cela pour une conclusion émise à haute voix par le président Donald Trump, dont il ne faut jamais oublier que son intimité avec sa base politique vient précisément de la télé-réalité. Donald Trump qui dit à la fin, ben en tout cas ça fait une bonne émission de télé.
Oui, alors en même temps il faut garder son sang-froid. Il faut analyser les choses avec précision, je crois. Et ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai, ça fait partie du monde actuel. Il ne faut pas se le cacher. Et peut-être, si vous voulez, si on essaie d'avoir une analyse aussi rationnelle que possible de cet événement scandaleux et vraiment très, très choquant, je dirais peut-être un ou deux points. Le premier point, c'est que la relation entre les États-Unis et l'Ukraine maintenant est au plus bas. Et donc la question qui se pose, c'est l'aide américaine qui va certainement, d'une manière ou d'une autre, être supprimée. Le deuxième point, c'est le jeu de Poutine quand même. Parce que si vous voulez, jusqu'ici, moi je pensais que Poutine serait capable de saboter les offres américaines.
Mais là, il attend.
Là, aujourd'hui, je me pose des questions, parce que comme Trump lui sert absolument tout sur un plateau, après tout, il peut quand même décider d'empocher.
Et on a entendu hier certains médias officiels russes traiter, comme d'habitude, Zelensky, je cite, de vermine cocaïnisée. Alors, c'est plus nazi, c'est cocaïnisé. Partons tout de suite à Washington, vous rejoindre, Robin Niblett, et encore une fois, merci de vous être levé aussi tôt pour nous. Vous êtes à Washington et vous êtes, m'avez-vous dit, quelques minutes avant qu'on prenne l'antenne, dans le fameux hôtel Hay Adams, où loge précisément la délégation ukrainienne.
C'est ce qu'on nous dit. Et, bonjour Christine et bonjour tous. Et le jet lag m'aide, j'espère, à former des phrases qui sont logiques lorsque je parle. Mais oui, bien sûr, l'hôtel ici, c'est où normalement, d'habitude, la délégation ukrainienne reste. C'est devant la Maison Blanche, comme tout le monde qui vient à Washington le sait bien. Et c'était bourré de gens ce matin, la reception, mais hier soir, lorsque je suis revenu dans l'hôtel, c'était très vide. mais la sécurité est toujours là. Non, c'est un environnement très bizarre, parce que j'avais planifié ce visite avant de... Toutes ces réunions étaient planées. J'étais ici, je suis arrivé au moment où le Premier ministre Starmer avait fini sa réunion avec Donald Trump et avait un optimisme ce matin, hier matin, à Washington, que même si c'est une situation très très difficile, les négociations sur l'Ukraine, il y aurait peut-être une manière d'arriver en avant. Et certainement que même si on n'avait pas, bien sûr, un accord de paix, etc., on avait peut-être un accord entre les États-Unis et la Ukraine sur les minéraux critiques dans ce pays. Et si on regarde l'émission en sa totalité, et j'encourage les gens qui ne l'ont pas fait, c'est possible de le voir sur C-SPAN. Pour les premières 40 minutes de la réunion, il n'y avait pas de problème. Hein. Bien sûr, il y a des positions différentes. Les Américains, Trump et les Ukrainiens arrivent à la situation d'une manière très différente. Il y a une phrase qui m'a frappé surtout de la réunion lorsqu'on avait demandé si au moins Trump était aligné avec l'Ukraine. Il dit « Je ne suis pas aligné avec personne ». Je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis pas aligné avec personne. Je suis aligné sûrement sur la paix et sur les intérêts américains. Alors il y avait toujours sous la surface, si on peut dire ça, bien sûr une tension très réelle. Mais si on avait fini la réunion après 40 minutes, ils auraient, je suis sûr, signé l'accord.
Et alors qu'est-ce qu'il y a, selon vous...
S'ils avaient signé cet accord, alors la réunion de Starmer à Londres demain serait une réunion pour dire au moins on a les Américains avec un intérêt commercial, boots on the ground, comme a dit Trump dans la réunion avec Starmer. Ils ne seront pas des boots on the ground militaires, mais un intérêt économique pour Trump est parfois plus important qu'un intérêt militaire dans un pays. Et ça aurait aidé un peu à aller en avant avec les alliés autres européens pour penser comment, eux, ils pourraient faire des garanties de sécurité que les Américains n'ont pas faire. Mais maintenant, la réunion de demain sera une réunion de crise.
Une réunion de crise qui va donc réunir une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement européens, plus Madame von der Leyen et Antonio Costa, le président du Conseil européen, le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Qu'est-ce que l'on peut espérer de cette réunion, Robin? Est-ce que vous pensez que les Européens vont faire front concrètement, ou est-ce qu'ils vont se borner avant le Conseil européen, Union européenne de jeudi, ils vont se contenter d'une, encore une fois, de déclarations de soutien à l'Ukraine.
Mon impression fondamentale, c'est que les Européens ont montré dans les dernières semaines une vraie volonté essentielle et importante sur le soutien de l'Ukraine dans le futur. Le fait que les premiers ministres du Royaume-Uni, de la France, même des autres, ont dit qu'ils sont prêts à mettre des troupes dans l'Ukraine même, s'il y a un paix ou un accord de paix au moins, ou un cessez-le-feu, que c'est la seule chose que Trump cherche en ce moment. C'est très important de savoir. Il ne cherche pas une paix juste. Il cherche justement la paix. C'est très difficile pour les Européens. Nous sommes bien sûr et naturellement involucrés d'une manière émotionnelle, mais aussi de la justice. Mais pour Trump, la justice ne veut rien dire. Alors, mais la réalité est qu'on ne peut pas faire front en ce moment à Trump. Parce que même si on a la volonté de mettre des troupes dans l'Ukraine dans le futur, on aura besoin, pas seulement pour un an, mais possiblement pour des ans, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, un soutien militaire de l'intelligence, des satellites, de ce qu'on appelle ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, du lift aérien, des armements américains. Alors, nous ne devons pas, à mon avis, trouver ce moment et convertir le sommet demain dans quelque chose qui est anti-américain, d'une manière qui dit « c'est à nous seulement maintenant de protéger les Ukrainiens ». Parce que le problème hier, si on regarde toutes les missions, c'est qu'il a dit même, Zelensky, que nous avons le soutien des Européens, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de votre sécurité et de vos garanties.
Et c'est d'ailleurs
c'est
ce que...
où J.D. Vance parlait de la diplomatie. Et on voyait que Zelensky voulait parler du soutien américain militaire. Et c'est quelque chose qu'en ce moment, on ne va pas recevoir de Trump. Alors, pour finir, à mon avis, je crois que ce qui est plus important maintenant seront des mots très très forts de soutien pour Zelensky, réaffirmer qu'il y a des pays européens qui sont prêts à mettre des forces là, dans le terrain, pour soutenir un cessez-le-feu ou la paix, et qu'on espère que l'accord avec Trump et avec les Américains et la Ukraine pourra se faire. Et à mon avis, pour finir, je crois que peut-être ça se fera Même parce qu'en ce moment, Trump va penser que Zelensky est dans une position encore plus faible qu'avant, et ça c'est bien pour lui, pour Trump, et il pense qu'il a montré, à Poutine qu'il n'est pas aligné dans ses négociations avec ni l'un côté ni l'autre, et ça lui aide à arriver à un cessez-le-feu. Alors c'est perverse, si ça c'est un mot perverse, on dirait en anglais.
Oui, on peut dire pervers.
Trump est seulement intéressé à arriver à un accord de un cessez-feu ou un accord de paix. Rien ne lui intéresse plus que ça.
Daniela Schwarzer, vu de Berlin, vu d'Allemagne, quelles sont les réactions ce matin, d'autant que votre prochain chancelier conservateur, Friedrich Merz, très longtemps un atlantiste convaincu, a dit, à peine les résultats des élections tombés, il y a quelques jours, il a dit, mais c'en est fini de la dépendance vis-à-vis de Washington. Donc, quelles sont les réactions ce matin, Daniela?
Alors, c'est d'abord le choc par la violence de Trump et son vice-président Vance. Je pense que les observateurs ici à Berlin sont agacés par le mépris qu'a démontré le président américain. Et c'était peut-être le dernier élément qu'il fallait pour comprendre que non seulement les États-Unis sont en train de se désinvestir de la relation transatlantique et du soutien à l'Ukraine, mais ont vraiment changé de cap. Et Friedrich Merz le disait en d'autres termes le soir même de son victoire électorale. Il disait qu'il fallait penser à la sécurité sans les États-Unis. Et ça, c'est quand même pour quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui a une forte tradition transatlantique et des liens très forts avec les États-Unis. Et dont toute la carrière politique a été construite dans un contexte où l'Allemagne pensait sa sécurité à travers le prisme des relations transatlantiques et l'OTAN, c'est quand même une réalisation fondamentale.
Une réalisation fondamentale, néanmoins, dans votre système politique, Merz va devoir construire une coalition avec les sociaux-démocrates, sévèrement battus. Est-ce qu'il peut disposer au Parlement d'une marge de manœuvre suffisante pour construire ce pilier de défense européen tout en offrant en fait à Emmanuel Macron, qui l'a confirmé hier, il était en visite d'État au Portugal, le président français, une éventuelle dissuasion nucléaire européenne grâce au parapluie français et britannique.
Alors, tout d'abord, Friedrich Merz, il a vraiment compris l'urgence de la situation. Et normalement, les négociations d'un traité de coalition peuvent durer 2 mois, peut-être 3 mois, dans une situation politique compliquée, même plus. Il a dit, dès le soir de l'élection, il a dit « je vais faire en sorte qu'on ait un gouvernement 8 semaines ». Depuis, il a encore accéléré. Maintenant, on parle d'un traité de coalition qui peut avoir une centaine de pages. Il parle d'un contrat de coalition beaucoup plus court, juste pour mettre les idées essentielles pour passer plus rapidement à l'action que c'est le cas normalement. Deuxième élément qui démontre très clairement l'urgence de la situation, Friedrich Merz est déjà parti à Paris pour dîner avec Emmanuel Macron. C'était mercredi dernier et ça c'est vraiment une décision très très rare ou même pas vue avant parce que normalement le chancelier ou la chancelière attendent qu'elle soit vraiment dans la position de chancelier. Là il est élu, il a gagné les élections mais il n'est pas du tout pour l'instant chef de gouvernement. Mais il est déjà parti pour discuter avec Emmanuel Macron et sûrement pour discuter aussi de ces questions tellement importantes, notamment la dissuasion nucléaire et la question de financement de la défense. Il a dit pendant la campagne électorale et aussi après l'élection qu'il fallait dépenser beaucoup plus pour la défense. Et déjà aujourd'hui, il y a des discussions très pratiques, très appliquées, comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que l'Allemagne a une règle dans sa constitution qui limite l'endettement et les déficits publics, mais on a aussi la possibilité de faire un budget hors budget. Pour cela, il faut que le chancelier annonce un état d'urgence. Et en matière de sécurité, avec la guerre en Ukraine et les États-Unis qui sont en train de se retirer, il y a cette situation politique qui est là. Pour la question du au Parlement, est-ce qu'il aura le soutien nécessaire? Alors, pour changer la Constitution, il faut avoir les deux tiers des députés dans les deux chambres parlementaires. Alors, à la fois au Bundestag qui vient d'être élu et puis la chambre où les régions sont représentées. Pour l'instant, ça semble très compliqué, mais parce que il y a un groupe très important de l'extrême droite qui ne va pas soutenir ce changement de constitution. Mais en même temps, il y a la gauche au Parlement et c'est là où les négociations peuvent se faire. L'extrême gauche est divisée. En fait, le parti d'extrême gauche qui est entré au Parlement, a priori, ne soutient pas cette démarche parce qu'ils ne veulent pas que plus soit dépenser pour la défense, mais en même temps, je pense là, il peut y avoir un petit marge de manœuvre si les questions de financement de défense sont liées à d'autres questions. Mais il y a de toute manière l'autre possibilité avec le budget hors budget, et ensuite il y a aussi la possibilité de passer par un financement européen. Et on a un très bon exemple avec le fonds Next Generation EU qui a été mis en place pendant la crise du Covid et que l'Allemagne a inventé avec la France.
Et on verra effectivement comment le sommet européen de jeudi prochain va traiter de cette question en essayant d'avancer sans doute sur un certain nombre de scénarios. Partons maintenant pour Rome, vous rejoindre Marc Lazare, Madame Meloni, dont on sait la proximité avec la nouvelle administration américaine. Elle était sur place pour l'intronisation de Donald Trump. Elle se vante de sa proximité avec Elon Musk. Dès hier soir, Madame Meloni a publié un communiqué où elle demande un sommet sans délai, avec les États-Unis, l'Europe et les alliés, a-t-elle dit. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, les alliés?
Alors, d'abord, je crois que l'objectif actuellement du gouvernement italien, c'est d'éviter la formule que vous avez employée, Christine O'Krent, lors de votre papier d'introduction, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait une fracture transatlantique, ou cette idée que justement on irait vers deux mondes. Ça, c'est l'objectif fondamental de ce gouvernement, c'est-à-dire c'est empêcher à tout prix que cette fracture puisse se produire, en pensant que donc c'est encore possible. Il faut calmer le jeu, il faut gagner du temps, c'est vraiment tout ce que l'on entend ici à Rome depuis quelques temps, et encore plus depuis ce qui s'est passé hier. Alors, effectivement, ce communiqué est important. D'abord, elle a attendu, elle n'a pas réagi tout de suite, elle est très très embarrassée, et je dois dire que je ne sais pas qui sont ses alliés, et quand vous avez dit États-Unis, l'Europe, non, États-Unis, les États européens, et c'est une nuance très importante. Elle n'a pas employé justement le mot Europe, elle n'a pas parlé de l'Union européenne, donc on voit bien l'hésitation qui tient au dilemme devant lequel elle se trouve, et qu'il va falloir qu'elle tranche à un moment donné. Ce dilemme, c'est quoi? D'un côté, c'est le fait que ce gouvernement de droite en Italie s'inscrit dans la continuité de la politique italienne depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire être aux côtés des États-Unis et être pro-atlantique, et à quoi s'ajoute l'élément spécifique à Giorgia Meloni et une grande partie de ce gouvernement, c'est-à-dire d'affirmer que tout ce que dit Trump, tout ce que dit surtout le vice-président Vance à Munich, dont Giorgia Meloni a dit qu'elle partageait une partie des propos, et effectivement, vous l'avez rappelé, sa proximité avec Elon Musk, eh bien, est-ce qu'elle va se ranger du côté des États-Unis, ou en même temps, et vous avez aussi employé cette expression,
continuer à essayer de jouer un rôle dans l'Union européenne. C'est là que ça se complique beaucoup, je crois, depuis quelque temps. Vous vous souvenez, jusqu'à peu près au milieu février, on parlait de Giorgia Meloni comme la femme forte de l'Union européenne. Emmanuel Macron affaibli par la situation politique française, l'incertitude du côté allemand, on attendait le résultat des élections et tout le monde disait ben c'est Giorgia Meloni célébrée par beaucoup de médias puis par beaucoup de commentateurs comme la personne qui était en pointe dans l'Europe. Et bien, depuis le discours de Vance et depuis ce qui s'est passé hier, on voit bien la difficulté de positionnement, je crois, de l'Italie, parce que on sent qu'il y a un axe qui est en train de se mettre en place. France, Allemagne, ça vient d'être dit, auquel il faut ajouter la Pologne et le Royaume-Uni, mais on pourrait rajouter aussi l'incroyable changement du Danemark, qui s'est prononcé pour une attitude très ferme, étant donné les menaces sur le Groenland. De l'autre côté, on sait qu'il y a la Hongrie et la Slovaquie qui, de toute façon, ont félicité Donald Trump, Viktor Orban l'a fait hier, et elle fait partie de ces pays qui disent bah, essayons encore de maintenir un équilibre. Essayons de faire en sorte qu'il y ait encore des possibilités de négociation. Donc je ne sais pas qui sont ses alliés. Franchement, je ne sais pas à qui elle pense. Elle a peut-être quelques idées en tête. Moi, je ne les sais pas. Ce que je pense, c'est que demain à Londres, bah, elle va essayer encore de jouer cette carte. Il faut discuter. Il y a aussi cette critique implicite à l'écart des Britanniques même et des Français. Vous êtes bien agités. Nous, on sait garder la tête froide et surtout, on tente encore une fois de maintenir la relation avec les États-Unis. Je précise cela dit qu'elle a rappelé dans son communiqué que l'Italie a été aux côtés de l'Ukraine et que le Corriere della Sera ce matin révèle qu'il y aurait une sorte de plan secret du gouvernement italien pour assurer la transformation de la production des industries automobiles au profit des dépenses militaires. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni a annoncé que de 1,5% du PIB qui était consacré aux dépenses militaires, elle s'engageait à le faire passer à 2,5% d'ici 2027.
Michel Duclos, on voit bien que les grands pays européens, et on l'a vérifié avec Emmanuel Macron à Washington lundi dernier, les propos répétés du président de la République au Portugal hier, on l'a vérifié aussi avec le Premier ministre britannique, les Européens n'ont plus d'autre choix que de continuer sur leur lancée, d'autant que la présence des Européens pour garantir ou protéger un éventuel cessez-le-feu sur le terrain en Ukraine a été demandée par les Américains eux-mêmes. Et Donald Trump a encore dit, de toute façon, c'est aux Européens d'offrir ces garanties de sécurité puisqu'ils sont, ils sont les voisins.
Oui, les Européens doivent se battre sur trois plans. Il faut qu'ils essayent d'influencer le règlement qui va se produire. Il faut qu'ils soutiennent l'Ukraine, qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine, même si les Américains font défaut. Et enfin, il faut qu'ils pensent à l'avenir d'une sécurité européenne qui ne sera plus assurée principalement par les États-Unis, naturellement. Et donc, c'est toute la question de l'autonomie stratégique, comme nous, Français, nous disions timidement ces dernières années. Maintenant, Merz utilise le bon vieux mot gaulliste d'indépendance. Et donc, les Européens deviennent gaullistes. D'ailleurs, une des ironies de cette affaire, c'est que sur le premier plan que j'ai cité, les garanties de sécurité pour essayer d'influencer le deal, Macron s'est comporté à la britannique. Et il a bien fait. Il est allé à Washington pour essayer de convaincre. Et ensuite, Starmer avait enfoncé le clou, si je puis dire. Trump ne s'était pas engagé vraiment, mais comme vous le dites, comme c'était le secrétaire d'État à la Défense qui avait le premier parlé de déploiement de troupes européennes et non européennes, d'ailleurs, ce qui n'était pas très sympathique pour nous, on pouvait penser qu'il y avait quand même un chemin, comme disent les diplomates. Là, ce qui est quand même très 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 troublant, c'est que Trump adopte le narratif russe sur tous les points, y compris, je le crains, celui-ci. Et là, ça va être un élément de rupture fondamentale entre Washington et nous, parce que s'il n'accorde pas ce vague soutien dont a parlé Robin, c'est-à-dire la logistique et l'intelligence, en quelques mots. Là, les Européens hésiteront beaucoup à faire un déploiement de troupes.
D'autant que les Européens n'ont pas cette technologie-là. Ils n'ont pas le Starlink d'Elon Musk qui permet aux drones ukrainiens de manœuvrer et d'anticiper les attaques voilà. russes. Ils n'ont pas les missiles Patriot. Donc, il y a un problème oui. d'approvisionnement en
termes militaires. Ce qui est terrible, c'est que dans le monde d'avant, on pouvait être à peu près certain que le Patagone aurait voulu faire ça, ne serait-ce que pour garder un contrôle de l'opération, tout en restant discret, mais dans les coulisses. Mais on n'aurait même pas eu à le demander. Tandis que là, ça devient une question, ce qui montre à quel point la Russie est devenue influente auprès de Washington. C'est quand même un élément fondamental, d'où le troisième plan. Il faut qu'on déploie notre défense par nous-mêmes. Et je dirais que là, il y a des décisions collectives à faire. Donc, comme le disait Daniela, par exemple, un grand emprunt de l'Union européenne pour financer les efforts de défense nationaux. Il y a des décisions individuelles à chaque pays. Je me demande si nous, Français, nous ne devrions pas, discrètement, mais faire du signalement, comme on dit, et donc prendre la décision d'augmenter le nombre de nos têtes nucléaires, de notre arsenal nucléaire. Parce que même à partir du moment où Merz parle de la dissuasion étendue des Britanniques et des Français, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et il n'y a pas besoin de discours pour ça, je crois. Il faut même éviter les discours. Il faut le faire et tout le monde comprendra ce qu'on a en tête. Voilà le genre de choses. Évidemment, les assets russes gelés, l'Élysée, la France ne veut pas en entendre parler, mais honnêtement, compte tenu de l'aggravation de la situation, si on veut continuer à soutenir l'Ukraine comme c'est nécessaire et comme on est ruiné, comme on n'a pas les moyens de le faire, c'est quand même absurde de ne pas taper dans la caisse russe, si vous voulez.
Jusqu'à présent, on a utilisé les rendements, les profits, les intérêts, mais effectivement, pour des raisons de droit, la France en particulier s'opposait.
Oui, Christine, c'est des raisons de droit, mais c'est surtout la crainte que ça effarouche les marchés, que donc oui. ensuite les gens ne viendront pas, mais on n'en est plus là, je crois.
On n'en est plus là. Repartons à Washington, vous rejoindre Robin Niblett. On voit à quel point Sir Keir Starmer, votre Premier ministre, et Emmanuel Macron ont véritablement joué de conserve. Ils ont accordé leur violon, si j'ose dire, avant de se rendre l'un après l'autre à Washington. Est-ce que ce rapprochement franco-britannique, d'autant plus important qu'il s'agit, il faut toujours le rappeler, des deux puissances nucléaires en Europe, ce rapprochement, selon vous, va-t-il être renforcé et consacré davantage dans les jours qui viennent ?
Alors, je crois que ça sera renforcé si les deux leaders s'accrochent sur leur position du début de la semaine et pas des émotions d'hier. Alors, c'est quoi le but que nous avons tous comme Européens et que eux, les deux leaders, je crois, ont montré? C'est que l'Ukraine survit comme pays souverain et qu'elle ne perde pas la guerre. Ça, c'est le but central en ce moment. Un but d'une potentielle de sécurité européenne qui soit plus indépendant des États-Unis est un but, mais c'est un but au futur, c'est pas le but immédiat. Et bien sûr, on peut penser, comme a dit Friedrich Merz, à la sécurité sans les États-Unis, mais aujourd'hui, ni pour les prochains 2, 3, 4 ans, on ne pourra pas le livrer. On peut penser, mais on peut pas le livrer. Alors je pense qu'en ce moment, ils ne vont pas vouloir perdre tous les avantages, les efforts qu'ils ont faits, Macron, Starmer, bien sûr avec les autres leaders européens, qu'on allait dans une direction au moins de maintenir les États-Unis comme une garantie, pas littérale, de sécurité pour une Ukraine après un cessez-le-feu, mais au moins de continuer avec l'appui et l'approvisionnement qu'on a parlé des capacités américaines pour continuer cette guerre. Et on doit mettre à l'écart, comme a fait Macron et Starmer, ils ont joué et ils ont gardé la tête froide ces dernières semaines. Je crois que demain, à Londres, ils vont vouloir continuer à le faire. Ils vont donner comme ils doivent le faire. Ils ont fait bien des mots d'appui pour Zelensky. Mais c'est essentiel de ne pas se mettre dans une bataille avec les Américains en ce moment. Sinon, on va perdre ce but central. Et il faut se souvenir, si on regarde encore l'interview hier ou la réunion, il y a un moment où Trump dit plaintivement, il dit, vous savez que Poutine a souffert, hein. Il a souffert comme moi, après les élections de 2017. Tout le monde disait Russie, 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 mais c'était le FBI, c'était Biden, c'était Hunter Biden. Toutes ces émotions de la politique domestique, de sa personnalité, sont centrales dans ce moment. Si on... comment est-ce qu'on dit en anglais, if you wake up the giant.
Si vous réveillez le géant.
Arrête Trump de ses pensées comme ça, on va être dans une position très difficile. Je pense que l'accord des minéraux critiques qui était sur le point d'être signé hier, on doit voir, je crois que Trump, c'est entièrement possible et qu'on le signera dans une semaine ou deux semaines. Mais sans ce pas, ça va être très difficile d'aller en avant.
Daniela Schwartzer, il n'est jamais question, en tout cas dans les conversations entre le président américain, le vice-président américain, dont il faut quand même signaler le rôle de plus en plus renforcé. C'est pas du tout la tradition que le vice-président dans le système américain se mêle à ce point de politique étrangère aux dépens d'un Marco Rubio, secrétaire d'État complètement effacé. Néanmoins, on a vu dans ces conversations, il n'a jamais été question véritablement de la fin de la guerre. Il a été question d'un cessez-le-feu et dans le vocabulaire de Donald Trump, dans ce qu'il a d'approximatif et il faut bien le dire de temps en temps de très simpliste, il s'agit de paix. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous autres Européens ?
À mon avis, il ne faut pas se tromper. Un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin de la guerre et la paix avec Poutine en ce moment, c'est une illusion. Parce que le président russe en rien a abandonné ses objectifs de la guerre qui sont, il a dit, il a écrit à plusieurs reprises, la fin de l'Ukraine en tant qu'État souverain et une extension du territoire russe, non seulement à l'Ukraine et la République de Moldavie, mais aussi vers d'autres pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, et donc les pays baltes. Donc je pense qu'il faut être très très réaliste, qu'il ne s'agit pas de définir un cessez-le-feu, ensuite négocier un cadre de paix. On peut le faire, mais ça ne va pas dire que les attaques de la Russie ne se feront pas dans l'avenir. C'est pour ça la question du cadre de sécurité, non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe de l'Est plus générale, est une question extraordinairement importante pour toute l'Europe. Et donc, quand Zelensky a dit lors d'un discours à la conférence de Munich, il a expliqué en détail pourquoi la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. À mon avis, ça devient de plus en plus clair aux leaders européens qui disent depuis 3 ans qu'ils défendent l'Europe quand ils soutiennent l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est compréhensible, c'est saisissable que c'est le cas. Et c'est pour ça que la question de l'Ukraine doit être vue dans la dimension d'un nouveau ordre de sécurité européen. Et l'Ukraine doit en faire partie. Donc ce n'est pas, en fait la question n'est pas de construire quelque chose pour l'Ukraine, mais de faire l'Ukraine une partie intégrale de la sécurité européenne, parce que c'est quand même une armée extrêmement bien entraînée, bien équipée en matière de d'armement qui est basé sur des technologies modernes. Il y a un secteur industriel qui est en train de se développer chaque semaine parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, on peut dire que, en quelque partie, les Ukrainiens sont leaders en matière de technologie de défense, notamment les produits pas très chers, notamment les petits drones, etc., et toute la dimension de la guerre digitale. Et il ne faut pas oublier ça, c'est non seulement que nous, on s'occupe de l'Ukraine, mais l'Ukraine va nous apporter beaucoup à notre sécurité à nous.
Mais à partir du moment où les États-Unis ont d'emblée rejeté toute idée d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, même si Donald Trump, au détour d'une petite phrase, mais finalement, ses propos sont souvent des petites phrases floues et parfois contradictoires, il a dit « Ah, mais l'article 5 reste en vigueur ». Robin Niblett, une dernière question pour vous. Est-ce que on peut imaginer qu'en guise de stratégie, c'est un mot qui paraît difficile à employer s'agissant de cette nouvelle administration, on voit bien les lignes de force, et en particulier l'offre à Vladimir Poutine en fait d'obtenir une paix aux conditions russes. Est-ce que dans l'esprit de Trump, de Vance, selon vous, Robin, il s'agit d'essayer de décrocher Moscou de Pékin?
Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais déjà fait cette visite à Washington, c'est pour parler précisément de cette affaire. Parce que sans doute, pour les Américains, pour Trump, mais très importantement aussi pour l'administration américaine de Trump, tous les gens dans le cabinet, ceux qui les appuient, c'est la Chine qui est le cible centrale, le cible stratégique pour cette administration. C'est pas l'Europe. Et je crois qu'ils voient l'Europe comme une partie d'un jeu plus important dans lequel les Européens font une partie plus petite envers qu'une partie centrale. Alors, on doit demander à ce moment-là si le cessez-le-feu, cette manière de chercher la paix avec la Russie, forme partie de cette stratégie. Je crois sans doute pour moi que Trump veut sinon séparer ou décrocher, comme vous avez dit, la Russie de la Chine ou la Chine de la Russie, il veut au moins déstabiliser la relation entre les deux. Il croit que notre appui pour l'Ukraine pousse la Russie et la Chine de plus près ensemble. Et s'il peut au moins faire un cessez-le-feu, et ça, pour lui, serait suffisant, même si ce n'est pas une paix durable, s'il peut faire un cessez-le-feu, la Chine sera plus affaiblie. C'est pour ça qu'il parle même de faire des accords commerciaux, pas seulement avec l'Ukraine, mais après, si un cessez-le-feu ou une paix, il veut faire des accords économiques avec la Russie. Hein? Le cessez-le-feu, c'est pas la fin pour Trump, ce serait le début de formuler une relation meilleure entre les États-Unis et la Russie. Alors pour nous, les Européens, c'est quelque chose d'impossible. Et je crois qu'il y aura des vrais problèmes transatlantiques après un cessez-le-feu, ou après, même si c'est une paix. Parce que, comme disait Daniela, pour nous, que l'Ukraine peut survivre, qu'elle forme partie d'une Europe de sécurité, de nouvel ordre de sécurité européen, est centrale pour nous. Mais pour Poutine, non. Pour lui, le fait que l'Ukraine puisse vivre comme ça serait très très difficile. Ce n'est pas le but de sa guerre. Je crois qu'à manière intéressante, Trump pense que peut-être, regarde, si tu as les États-Unis, nous, à ton côté, tu n'as pas besoin de l'Ukraine. Je ne sais pas si Poutine va accepter cette manière de penser, très américaine, je dois dire, à la fin. Mais c'est un peu le monde dans lequel on habite en ce moment à Washington.
Est-ce qu'on peut imaginer néanmoins, on voit que Vladimir Poutine prend son temps. Il a offert hier, assez mollement, mais il a quand même offert aux États-Unis de reprendre les liaisons aériennes entre les États-Unis et la Russie. Mais Robin, la date clé pour le régime russe, c'est évidemment toujours le 9 mai, donc le 80e anniversaire de la victoire soviétique à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que d'ici là, d'une manière ou d'une autre, les relations Trump-Poutine peuvent dérailler ?
Dérailler, ça veut dire aller pire,
oui.
Correct ?
Oui.
C'est difficile à savoir, parce qu'à la fin, je crois que Poutine attend. Il attend pour voir comment ces frictions, ces fractures dans la relation transatlantique et certainement les fractures entre le leader ukrainien Zelensky et Trump peuvent jouer. Mais à la fin, ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que Poutine pense qu'avoir un cessez-le-feu, au moins, est quelque chose qui est un avantage pour lui. Pour ça, il faut savoir si les pertes matérielles et humaines que les Russes continuent à souffrir et la situation économique avec l'inflation très, très haute, avec les taux d'intérêt de 21%, est quelque chose qu'il peut soutenir à long terme. Je pense, à mon avis, qu'en ce moment, Poutine veut la paix. Oh non, il veut un cessez-le-feu.
Oui.
Je dois utiliser les mots corrects. Et ça lui aiderait s'il peut montrer à Trump qu'il est quelqu'un avec lequel les Américains peuvent travailler. Parce qu'il faut se souvenir aussi, les Russes ne sont pas contents avec leur dépendance à la Chine, non plus. Alors, s'ils peuvent ouvrir un peu de manœuvre stratégique pour les Russes, ça serait très important. Certainement, c'est avec une Ukraine affaiblie. Alors, je suis pas sûr. Ce qui m'intéresserait de voir, c'est si Zelensky peut lui-même survivre. Parce que pour Trump, je crois que perdre Zelensky, il serait même satisfait si ça lui aiderait à faire un accord de paix avec les Russes et avec l'Ukraine. Alors c'est un moment très très délicat.
Michel Duclos, vous pensez à ce scénario Trump, Poutine, Xi Jinping ?
Mais d'abord, je ne crois pas du tout que Poutine ait besoin d'un cessez-le-feu. Je pense qu'au contraire, il va faire monter les enchères. Peut-être qu'un jour, il va décider d'empocher, mais il va essayer de gratter beaucoup plus que ce que Trump lui offre. Et plus Trump lui cède, plus Poutine en demandera plus. Et sur l'affaire chinoise, je ne doute pas un instant que Pékin et Moscou n'ont aucune intention de distendre leurs relations. Et là aussi, dans une logique de marchandage, dans la mesure où ils comprennent que c'est un prétexte pour les Américains, parce que je ne suis pas sûr que Trump lui-même prenne tout ça au sérieux, mais puisque c'est l'argument qu'ils avancent, Poutine n'a aucun intérêt à donner des signaux d'éloignement de Pékin. Donc l'histoire du Kissinger à l'envers, je crois que c'est vraiment de la blague, et c'est à nous de l'expliquer calmement, mais sérieusement aux Américains.
Et on apprend d'ailleurs ce matin que la Corée du Nord va envoyer l'un de ses hauts responsables au Kremlin. Donc on voit que le Kremlin a le souci d'afficher, on l'a vu
Ils ont envoyé des émissaires à Pékin et à Téhéran, pour bien expliquer, oui. Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas, le front anti-occidental demeure. Marc Lazare, ce qui est frappant dans cette évolution, ce raidissement, ces crispations, et encore une fois cette fracture transatlantique, c'est le retour de l'idéologie dans ce contexte, d'une idéologie réactionnaire au sens étymologique du terme, que J.D. Vance en particulier, qui est quand même l'intellectuel de la bande, il faut le souligner, que J.D. Vance cherche à théoriser, comme il l'a fait, avec une brutalité à laquelle, hélas, il va falloir s'habituer, comme il l'a fait à la conférence de Munich il y a quelques jours.
Oui, incontestablement, je dirais même que le vice-président est vraiment extraordinairement cohérent. C'est le vrai idéologue et il s'impose, comme vous l'avez rappelé, c'est dépassant un peu la tradition d'un vice-président plutôt effacé dans l'histoire des institutions américaines. Alors évidemment, il y a un écho du côté de Giorgia Meloni. Elle a fait une partie de sa campagne en 2022 sur la question de l'immigration, mais aussi sur la dénonciation qu'elle ne cesse de répéter du wokisme, de la cancel culture. Elle admire effectivement ce retour de l'importance de la souveraineté nationale. Elle a manifestement, elle suit avec beaucoup d'attention la manière dont les États-Unis veulent traiter la question des immigrants clandestins. Donc oui, il y a beaucoup de points d'accord. Alors attention, en même temps, elle est confrontée à une série là aussi de dilemmes. Hein. Est-ce qu'il faut aller complètement embrasser en quelque sorte Vance après avoir beaucoup embrassé Musk au risque de se couper de l'Europe? Et ça pose un problème pour au moins deux raisons. D'abord un problème politique. Il faut jamais oublier qu'elle est à la tête d'une coalition. Et si d'un côté sur sa droite il y a la Ligue de Salvini, alors là totalement alignée actuellement sur l'administration américaine et souhaitant plus vite la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et demandant que surtout il n'y ait pas de soldats italiens qui soient engagés après une éventuelle conclusion d'un cessez-le-feu. De l'autre côté, il y a Forza Italia, le parti qui avait été fondé par Silvio Berlusconi, qui est dirigé actuellement par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Tajani, et qui reste justement un pro-européen et qui essaye d'affirmer l'importance, de rappeler l'importance de l'Europe pour l'Italie et de l'Italie dans l'Europe. Et puis, il y a une deuxième raison évidemment fondamentale, c'est que l'Europe avec laquelle travaillent les entreprises italiennes. Et en plus, elle bénéficie de tout ce qui est l'accord du Next Generation EU, qu'on appelle ici le plan national de relance et de résilience. Donc, elle est tiraillée, littéralement tiraillée. Et le tout, je me permets de le rappeler, parce que évidemment, on insiste, et à juste raison, sur l'effort que doivent faire les Européens en termes de dépenses militaires, en termes justement un jour d'envoi de soldats éventuellement sur le territoire ukrainien. Mais en Italie, il y a un problème, c'est qu'il y a, comme je pense en Allemagne, enfin je parle sous le contrôle de Daniela, mais il y a cette grande tradition du pacifisme italien liée aux 20 années de fascisme, liée à la culture catholique, qui bien sûr est beaucoup moins prégnante qu'auparavant, mais qui est toujours là, et puis lié à l'héritage de la culture de l'ancien parti communiste italien, le plus puissant parti communiste de l'Europe occidentale. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Cette culture pacifiste, elle est relayée par Matteo Salvini, elle est relayée par un parti d'opposition, le mouvement 5 étoiles, et la secrétaire du Parti démocrate, donc parti de centre-gauche, hier a fait cette déclaration, je cite, « Nous sommes contre Donald Trump et son faux pacifisme, et contre l'Europe qui veut continuer la guerre. Contre l'Europe qui veut continuer la guerre. » C'est-à-dire que pour la dirigeante du parti de centre-gauche, c'est pas la Russie qui veut continuer la guerre, c'est l'Europe qui veut continuer la guerre. Évidemment, cette déclaration a provoqué de fortes polémiques, mais à mon sens, elle révèle justement cette sensibilité italienne, et je pense qu'elle doit peut-être exister en Allemagne et qui complique la tâche du chancelier Merz. Et enfin, dernière petite chose, on a beaucoup parlé à juste raison du Premier ministre britannique, d'Emmanuel Macron, du futur chancelier Merz. Ben, c'est bien le problème de Giorgia Meloni, c'est bien son problème. Elle pensait avoir acquis une assise européenne, voire une assise internationale, de s'être imposée dans le concert des nations européennes, dans l'Union européenne et au niveau international. Et là, elle se voit éclipsée parce que précisément, où peut-on situer Giorgia Meloni? Les autres dirigeants ont une position très claire, on vient de le rappeler. Et là, elle est dans un flou qui, du coup, j'allais dire, anéantit un peu, voire pas mal, tout l'effort qu'elle avait fait depuis octobre 2022, lorsqu'elle est arrivée au Palazzo Chigi, c'est-à-dire au siège de la présidence du Conseil, pour justement se doter d'une crédibilité internationale et d'une forme de respect de la part de tous les chefs d'État et de gouvernement. Là, on voit bien les ambivalences profondes de Giorgia Meloni.
Michel Duclos, on arrive à... comment dire cela, à une conclusion extrêmement provisoire et chancelante en quelque sorte de cette conversation ce matin, et le temps me manque de demander à Daniela si effectivement ce pacifisme et cette tentation d'une démocratie illibérale, on le voit aussi en Allemagne évidemment avec la montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Néanmoins, Michel, est-ce que ce retour de l'idéologie, cette idée que dans nos pays européens, oui, le modèle illibéral fait des progrès, même si on peut noter qu'en Autriche, où on s'attendait à avoir une coalition dominée par l'extrême droite, eh bien, ce n'est pas le cas. Apparemment, c'est une coalition pro-européenne qui serait en cours de cristallisation. Est-ce qu'on vit, en fait, un retour de l'idéologie incarné désormais moins par Donald Trump que par J.D. Vance?
C'est absolument incontestable et c'est un très grand danger, comme je l'ai dit au début de l'émission. Mais il faut quand même positiver un peu, il faut regarder les éléments d'espoir. D'abord, il faut se souvenir des débuts de l'après-guerre en 1945, la 4ème République. Les partis libéraux, comme on dit maintenant, c'est-à-dire à l'époque c'était le Parti communiste, c'était pas l'extrême droite, étaient également aux portes du pouvoir. Et c'était pas seulement vrai en France, c'était vrai en Italie et dans d'autres pays, il y avait d'autres forces. Eh bien, ces gouvernements faibles de la 4ème République ont quand même réussi à bâtir, avec le reste de l'Europe et les États-Unis, une alliance qui a tenu en respect la menace soviétique. Donc, oui, on a beaucoup de faiblesses dans nos pays, mais ne sous-estimons pas non plus notre capacité de réagir. Et ça, c'est le deuxième point, c'est que Poutine est certainement ravi d'avoir obtenu une division profonde entre l'Amérique et ses alliés. Il est sans doute moins ravi de voir les Européens converger vers une certaine unité. Et donc, le camp européen est en train, là, de se former avec les Britanniques ou d'autres qui sont pas dans l'Union européenne. C'est plus l'Union européenne, c'est vraiment l'Europe. Et là, évidemment, il y a une opposition, c'est la Hongrie, la Slovaquie, mais voilà, en démocratie, il y a des oppositions. Il y a des gens comme Mélanie qui cherchent à avoir leur place, mais moi, je ne doute pas qu'elle finira par se rallier à ce consensus. Donc, l'élément d'espoir, il est là quand même, c'est que cette Europe que les Français ont longtemps souhaité plus indépendante et plus forte, et s'ils acceptent qu'elle soit pas trop française, parce qu'évidemment il faut qu'on résiste à la vanité de dire « je vous l'avais bien dit », etc. Il faut que Macron utilise, c'est l'homme d'État le plus populaire en Europe aujourd'hui. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Il faut qu'il utilise cette popularité sans chercher non plus à vouloir être le leader maximum qui domine tout le monde. Il faut qu'il joue sa partie pour créer, se renforcer ce consensus qui est en train de se dessiner sous nos yeux, je crois.
Et donc, on vérifiera demain à Londres, il faut le rappeler, une quinzaine de dirigeants européens, plus les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN, et puis jeudi prochain, un sommet de l'Union européenne sur les problèmes de défense et de soutien à l'Ukraine. Merci mille fois à vous quatre. Michel Duclos, je recommande très vivement vos analyses qui sont publiées sur le site de l'Institut Montaigne. Sur le même site de l'Institut Montaigne, Marc Lazare, vous avez co-signé une note sur portée et limite des nationaux populistes. C'est paru, je crois, en avril dernier. Robin Niblett, deux papiers très intéressants que vous avez signés dans le Financial Times, l'un en janvier et l'autre beaucoup plus récemment, il y a une dizaine de jours, sur les sanctions occidentales vis-à-vis de la Russie, et un ouvrage sur la nouvelle guerre froide, comment la compétition entre les États-Unis et la Chine vont modeler notre siècle. C'est paru en anglais, bien sûr, à Atlantic Books. Et je n'oublie pas, bien sûr, Daniela Schwartzer. Vous êtes co-rapporteur, Daniela, avec notre ami Camille Grand et Ivo Dalder, d'un rapport sur le nouveau marché transatlantique, comment construire Un pilier européen de la défense, c'est un papier que vous avez rédigé tous les trois pour la Harvard Kennedy School. Voilà, merci à tous. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Ludovic Augier à la technique, Laura Dutèche-Pérez et Patricia Miura de la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Nous sommes samedi. Voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end. Et à samedi prochain.